en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
En décembre 2008, l'Académie des inscriptions et belles-lettres organisait à la Fondation Simone Cino del Duca un colloque international consacré aux textes gnostiques découverts à Nag Hammadi. Ce colloque portait pour titre « Les textes de Nag Hammadi, histoire des religions et approche contemporaine ». Il était organisé en partenariat avec l'Université Laval de Québec. Parmi les intervenants, Canal Académie a choisi de vous faire entendre l'égyptologue Nicolas Grimal, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et professeur au Collège de France. Il explique que ce n'est pas un hasard si les écrits gnostiques ont été découverts en 1945 en Moyenne-Égypte, cette partie de l'empire des pharaons ayant toujours été un haut lieu de la réflexion théologique et de la métaphysique. Écoutez maintenant Nicolas Grimal.
Je dois dire que lorsque mon confrère, ami et voisin Jean-Pierre Mahé m'a demandé de participer à cette réunion consacrée au texte de Nag Hammadi, j'ai bien essayé de plaider mon incompétence. Mais vous connaissez tous sa courtoisie amicale, la façon qu'il a d'insister, et je n'ai pas pu refuser. Me voici donc parmi vous, président cette séance, avec comme seul titre à le faire d'être le locataire précédent, si je puis dire, de l'Égypte. J'ai donc une tâche extrêmement difficile pour un titre que m'a aimablement imposé l'Empire Mahé, de Louxor à Nag Hammadi, de trouver une connexion entre les textes et les courants de pensée sur lesquels vous travaillez et l'Égypte pharaonique antérieure. Nous disions à l'instant, Jean-Pierre Mahé et moi-même, avant de commencer, que effectivement, ou je ne sais plus avec qui, je crois que c'était avec vous, avec quelqu'un d'autre, on a l'impression que tout cela se passe hors d'Égypte. On se dit, après tout, pourquoi est-ce en Égypte? Alors, ce n'est pas parce qu'en 1945, il y a deux malheureux types qui ont trouvé des codex, et on a tendance à décontextualiser totalement ces textes. Je sais bien qu'il y a une hypothèse, l'hypothèse pacomienne, qui consiste à dire que l'on a affaire à une bibliothèque, en fait, une bibliothèque de réflexion du monastère de Saint-Pacôme. Cette hypothèse est discutée. Je ne me donnerai pas le ridicule d'entrer dans des débats qui ne sont pas les miens, pour lesquels je suis totalement incompétent. Mais la question du substrat se pose bien évidemment. Indépendamment du contenu des textes, oublions un instant, si vous voulez, le contenu de ces textes, ne gardons peut-être que deux ou trois éléments qui peuvent nous servir de thème de réflexion. Premier élément, c'est que nous avons affaire à un ensemble textuel qui, très tôt, a été traduit en copte. C'est-à-dire qu'il y a une appropriation de textes grecs qui sont très tôt traduits et cette traduction se fait de façon à entrer dans un système de réflexion qui, deuxième élément sur lequel je voudrais articuler les quelques mots que je vais vous dire, se repose sur deux lieux de découverte. Il y a, premier lieu, Nag Hammadi. Donc, premier élément, ce que je vais vous dire, deuxième élément, un élément géographique. Et si vous voulez, dans les quelques réflexions que je vais faire devant vous, c'est ce côté géographique que je voudrais souligner. Il y a deux lieux essentiels de découverte. Le premier, c'est Nag Hammadi, bien évidemment, mais il y a un autre lieu qui est, disons, second dans la mesure où il n'est pas lié à la découverte physique de l'ensemble des codex, mais dont on s'est aperçu après, vous le savez mieux que moi, en étudiant ces textes, qu'il y avait une corrélation. Donc on a Nag Hammadi et puis on a les textes d'Oxyrhynchos dont on s'est aperçu après coup qu'ils étaient en fait en corrélation et qu'ils appartenaient à un ensemble que l'on pouvait supposer commun. Si nous regardons la carte géographique ici, eh bien, nous avons Oxyrhynchos tout à fait au nord, que vous voyez au-dessus du E de l'Égypte, Nag Hammadi, qui est près de la boucle de Kéna du Nil, et puis Louxor, qui est le point d'articulation de cet exposé. Nous sommes dans cette zone que les égyptologues et les géographes appellent la Moyenne-Égypte. Alors, cette terminologie de Moyenne-Égypte est quelque chose qui n'a fait pas grand sens, hein, Vous savez, les égyptologues qui ne sont pas très, très malins parlent d'ancien empire, de moyen empire, de nouvel empire et de période intermédiaire, ce qui n'a aucun sens. De même, Moyenne-Égypte, Basse-Égypte, Haute-Égypte, c'est une définition géographique que l'on a tort souvent d'utiliser sur le plan historique. N'en déplaise aux théoriciens de l'hydraulique, à Boutzer et à ceux qui continuent à penser que les civilisations descendent des fleuves, la Moyenne-Égypte n'a pas attendu que le cours du Nil soit canalisé en Haute-Égypte pour exister. Ce découpage géographique, en fait, correspond pour la zone qui nous intéresse à ce que l'on pourrait appeler l'Égypte proprement dite. C'est-à-dire que nous sommes dans la partie de la vallée du Nil qui est proprement égyptienne, qui est en quelque sorte refermée sur elle-même et qui est un des foyers de la culture pharaonique depuis les plus hautes époques. Je vais y revenir dans un instant. En effet, quand vous regardez la disposition géographique, vous voyez que toute cette vallée est relativement isolée. Vous avez simplement... Voilà, ici, vous avez simplement ici les pistes qui permettent d'en sortir. Vous avez ici le Dar al-Tawil qui permet d'arriver jusqu'à Harga et par Harga de remonter sur la chaîne des oasis, la Libye ou le Soudan. De l'autre côté, vous avez ici, juste à la limite sud du Fayoum, un accès vers la mer Rouge et surtout, vous avez le double accès par le Wadi Kena et le Wadi Hammamat vers la mer Rouge et vers le monde extérieur. Donc toute cette zone ici, toute cette partie de l'Égypte est une partie qui est assez refermée sur elle-même et qui va vivre tout au long de la civilisation pharaonique et encore, c'est un peu le but de ce que je veux vous montrer à époque chrétienne, qui va vivre dans cette espèce de bain culturel originel qui va connaître des développements dont peut-être nos textes de Nag Hammadi trahissent quelques éléments. Regardons, pour rester dans la carte, regardons de plus près cette carte. Voilà ici, donc, en partant du nord, Oxyrhynchos, El Barnassa, où ont été trouvés donc, des manuscrits dont maintenant on sait qu'ils sont à rattacher à cet ensemble des codices de Nag Hammadi. Si vous regardez la disposition géographique et cultuelle actuelle, on est en plein dans la zone d'Al-Minya, on est en pleine zone chrétienne. On est ici dans une des zones où la majorité est chrétienne et non pas musulmane. C'est-à-dire qu'on est dans une des zones de plus forte résistance à la couche arabe et à la couche musulmane. Vous avez des grands monastères qui sont installés dans cette région, à commencer par le monastère du Gebel Ether, dont j'ai souligné la présence ici. Voici une vue d'Oxyrhynchos, une vue actuelle, si je puis dire, d'Oxyrhynchos, que je vous montre à la fois pour vous rendre sensible à la permanence humaine de la région, mais en même temps pour donner une image visuelle, si vous voulez, de ce que sont ces sites. C'est-à-dire que l'on a affaire à des sites qui sont en dehors, qui sont à la limite des zones cultivées, des sites sur lesquels il existe une permanence que l'occupation humaine n'est pas venue perturber au fil des siècles. Dans cette région, en effet, qui est une région de fort peuplement, de forte densité agricole, les sites et leurs contenus se maintiennent soit parce qu'ils sont dans des zones désertiques, donc des zones à la limite de l'habitat, ce qui est le cas d'Oxyrhynchos, ce qui vous explique l'abondance papyrologique d'Oxyrhynchos, qui n'est pas perturbée, ou alors les sites sont sur des sites qui ont continué à vivre dans les mêmes vocations, plus ou moins, c'est le cas des monastères. Et les monastères eux-mêmes sont les dernières accumulations, souvent, de sites antérieurs. Restons sur notre carte et remontons le cours du Nil. Gebel Ether réapparaît, vous le voyez en haut de la carte. El Minya, je n'insiste pas, tout le monde connaît El Minya. Je voudrais juste évoquer un site qui est à proximité de Malawi, qui est juste à l'ouest de Malawi, qui est Touna El Gebel. Alors, Touna El Gebel, bien évidemment, je vous en parle à cause d'Hermopolis. Et là, on est en quelque sorte au moins au niveau des termes, on est dans le cœur même de certains de vos débats. On tombe dans les textes hermopolitains, on tombe dans, vous avez ce magnifique texte sur Logdoad, il est évident que pour un égyptologue, Hermopolis et Logdoad hermopolitaine, c'est quelque chose qui est une racine égyptienne. Alors, là encore, je ne me donnerai pas le ridicule de vous dire que dans vos textes, vous avez là une racine égyptienne, mais il y a une rencontre qui fait peut-être sens, qui fait peut-être moins de sens, c'est à vous de le dire. Nous parlerons tout à l'heure de Seth et de la tradition judaïque, et Seth aussi pour les Égyptiens est une réalité existante très forte, il n'est pas indifférent que ce soit lui qui réapparaisse, mais nous avons ici un des foyers dans lesquels les Égyptiens, depuis la plus haute antiquité, mène une réflexion théologique. Je vous rappelle que la théologie hermopolitaine est probablement la plus ancienne d'Égypte. Elle est à l'origine de la cosmologie même des Égyptiens. Elle est à l'origine en particulier de l'ammonisme tel que vous le connaissez. Et Hermopolis a gardé, si je puis dire, cette valeur de foyer culturel. Je vous donne un seul exemple, que vous voyez ici, qui est tiré du tombeau de Pétosiris. Nous sommes donc ici pratiquement au milieu du premier millénaire avant notre ère. Vous avez un de ces exemples d'acculturation hellénico-égyptienne qui est dans le tombeau de Pétosiris, mais que l'on retrouve dans d'autres foyers de l'Égypte qui sont aussi des lieux assez éloignés et préservés. Je pense en particulier aux oasis du désert occidental et au tombeau de Moussawaa à la sortie de Wat Dakhla sur la route de Farafra. Je pense aussi aux installations mises en évidence par les fouilles de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, à Kharga, dans la zone de Kasret Douch, où nous avons, alors cette fois-ci, non pas une présence chrétienne comme on peut l'avoir en Moyenne-Égypte, mais des racines d'acculturation grecque, avec en particulier des rédactions de poèmes homériques faits par le maître d'école de la région de Douch ou de Ain Labaha, plus au nord. C'est-à-dire que l'on voit, c'est un des endroits où l'on saisit, dans cette Égypte qui change, le passage d'un système, du système païen, du système pharaonique, à un autre système, et l'on peut suivre l'évolution culturelle et intellectuelle, comme aujourd'hui, par exemple, grâce aux travaux de nos collègues polonais, on peut la suivre à Komedica, à Alexandrie, on peut être dans la Stoa de l'Académie, et donc voir un lieu dans lequel se déroulait ce mouvement intellectuel. Donc nous sommes dans cette région de Moyenne-Égypte, dans un des foyers de création intellectuelle qui déjà, par sa simple existence, justifie le fait que ce soit dans ces lieux-là qu'aient été retrouvés ces textes. Je quitte Touna el-Gabal pour aller avec vous à la rencontre d'autres sites. Je signale que dans cette zone d'Al-Minya, nous avons deux sites importants pharaoniques, c'est Beni Hassan. Beni Hassan, les tombes des nomarques de Beni Hassan, ont joué un grand rôle. C'était un lieu charnière dans l'Égypte du début du deuxième millénaire. Mais surtout, nous avons un site important qui est Tell el-Amarna, que vous voyez apparaître ici. Alors, je ne vais pas vous faire tout un grand discours sur l'amarnisme, mais il est évident que nous avons à nouveau dans cette région un élément qui va dans le sens de l'interprétation que je suis en train de vous proposer. Nous sommes dans un des lieux de réflexion théologique. Il n'est pas indifférent que Amenhotep IV, devenant Akhnaton, se soit déplacé dans cet endroit totalement désert, face d'Hermopolis à peu près, dans cet endroit totalement désert, pour y créer de toutes pièces cette cité du soleil, dont les Égyptiens vont refuser l'idée immédiatement après le règne, et qui ne sera rattaché aux éléments chrétiens qu'extrêmement tard, puisque, en gros, la théorie du pré-christianisme des hymnes amarniens, ça remonte aux années 50 et surtout aux années 1960, avec l'œuvre de François Doma, qui a extrapolé, si vous voulez, du grand hymne à Aton, un rapport avec le psaume 104, dont très rapidement, dans la décennie qui a suivi, on a pu démontrer qu'il était le même avec les hymnes ammoniens, qu'il était le même avec l'ensemble des hymnes. Si vous voulez, il y a un fond commun, mais il n'y a pas une filiation, il n'y a pas un pré-monothéisme atonien. Je vous renvoie aux travaux de Jan Assmann pour cela, entre autres. Mais il est certain qu'il y a dans cette région et dans l'histoire de cette région dès le milieu du deuxième millénaire, il y a une recherche de théologie, il y a une recherche culturelle. Continuons à descendre rapidement, parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps, la carte, pour arriver à Nag Hammadi. Vous voyez que en haut, j'ai colorié toute la région de Sohadj. Sohadj est aujourd'hui un des très hauts lieux de la chrétienté en Égypte. Vous avez le couvent blanc, le couvent rouge, et vous avez tout un ensemble qui recoupe un ensemble beaucoup plus ancien de temples pharaoniques qui sont aussi des très hauts lieux de la recherche théologique. Au passage, je vous rappelle que dans cette zone, vous voyez, immédiatement au nord de Nag Hammadi, au nord-ouest, vous avez des sites qui, pour les Égyptiens anciens, sont des sites premiers. Tis, qui est le lieu de la première royauté. C'est la nécropole dans laquelle sont enterrés des rois qui remontent au quatrième millénaire, Abydos. Abydos est l'un des deux grands lieux saints de l'Égypte ancienne, c'est l'un des deux grands pèlerinages, c'est là où est le tombeau d'Osiris. Ce tombeau d'Osiris que vous pouvez voir à côté du temple de Séti Ier, ce tombeau d'Osiris que vous voyez ici, avec une représentation et de la tombe et du monde souterrain, on est, toute proportion gardée, mutatis mutandi, on est en Égypte ici, dans l'homme phallos pharaonique, c'est-à-dire que c'est ici où tout se passe. On est au centre du monde, on est au centre de la mort, de la régénérescence de Osiris. Donc on est dans un lieu qui est considéré par les Égyptiens comme étant au cœur même de leur métaphysique. Autre haut lieu de la réflexion, depuis les plus hautes époques, c'est Dendara. Dendara, aujourd'hui, tout le monde connaît le temple d'époque romaine qui est ici, dont vous voyez une vue aérienne. Mais Dendara, dès le troisième millénaire, est un des très hauts lieux de la réflexion. Et aujourd'hui, on se rend compte, en particulier grâce aux travaux de Madame Sylvie Coville, que les racines historiques de la réflexion théologique autour de la déesse Hathor remonte à peu près au milieu du troisième millénaire, à un moment où l'Égypte réintègre le monde dans le système héliopolitain primitif. Vous voyez, on est là dans un système de construction théocratique d'une densité extrêmement grande. Pour mémoire et pour le rappeler, pour vous rappeler aussi qu'il est au Louvre, voici juste une vue de ce zodiaque qui paraît une chose relativement simple quand on la regarde rapidement, mais qui en fait est une description du cosmos d'une complexité extraordinaire dont l'archétype remonte au milieu du troisième millénaire avant notre ère. Quelques instants encore sur cette carte pour arriver jusqu'à Louxor. Louxor, aujourd'hui, ne fait pas sens par rapport à Nag Hammadi, mais Louxor, c'est Djemmeh, c'est Medinet Abou. Alors évidemment, vous voyez ici le résultat catastrophique, désespérant, navrant du travail des archéologues qui ont enlevé toutes les couches chrétiennes pour ne garder que ce qui leur paraissait important, c'est-à-dire les couches pharaoniques. N'oublions pas, ici, nous voyons Medinet Abou et cette enceinte nettoyée. Cette enceinte, c'était Djemmeh. C'était la capitale, c'était l'archevêché. Djemmeh avait un rayonnement qui allait jusqu'à Nag Hammadi et au-delà. Aujourd'hui, évidemment, il ne reste malheureusement, hélas pour vous, que la 18e et la 19e dynastie avec quelques éléments tardifs. Je suis tout à fait conscient que c'est lamentable, mais qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas faire autrement. Imaginez que l'ensemble de Thèbes, au moment où des gens comme Mariette entreprenaient leurs travaux, l'ensemble de Thèbes était recouvert de la ville chrétienne. Et il est évident que si l'on avait à l'époque étudié cette ville chrétienne, aujourd'hui, on aurait une vision relativement différente et probablement pourrait-on réintroduire plus facilement les textes de Nag Hammadi dans des courants de pensée purement égyptiens. Voilà, vous pardonnerez ces quelques réflexions d'un égyptologue simplement qui n'a pas d'accroche sur vos textes. Je ne revendique pas une paternité du courant et de la recherche intellectuelle qui est celle que vous décrivez dans vos entretiens sur Nag Hammadi. Je dirais seulement qu'il n'est pas nouveau en Égypte de voir le courant de pensée se construire dans un site, comme vous le voyez autour des textes de Nag Hammadi. Nous l'avons, et paradoxalement, et ce sera peut-être ma conclusion d'une façon amusante, nous l'avons sur des lieux comme Djemmeh, qui, à votre époque, est un lieu de réflexion, de création et de connaissance. À l'époque qui m'intéresse, qui remonte deux millénaires plus tôt, à l'époque où Ramsès III construit à Medinet Abou, que fait-il ? Et on peut le suivre désormais grâce à l'étude des textes que nous faisons les uns et les autres. Il transplante une école de pensée qui venait de Louxor, qui venait de Karnak, il la transplante sur la rive occidentale, et nous avons la possibilité, ayant les trois points de comparaison, de comparer les productions littéraires et la réflexion de nos lointains prédécesseurs de l'époque de Ramsès III à Médinet-Abou sur le site de la future Djemmé et de voir l'évolution de la théologie égyptienne pharaonique. Le seul mal que je vous souhaite, c'est d'arriver à faire la même chose avec Nag Hammadi. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre l'égyptologue Nicolas Grimal lors du colloque consacré aux écrits gnostiques de Nag Hammadi organisé par l'Académie des inscriptions et belles lettres.